9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Près de 10 millions d'enfants de moins de 12 ans feront leur rentrée scolaire jeudi prochain. Pas de panique, on fait le point sur les enfants et le variant Delta avec le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue. Je recevrai ensuite la politologue Virginie Martin qui publie Le charme discret des séries. Pour elle, les séries ne sont pas anodines, elles parlent de politique et elles en parlent sérieusement. Et l'on terminera l'émission avec Jean-Michel Ribes qui entame sa dernière saison à la tête du Rond-Point, un théâtre qu'il dirige depuis 20 ans et qui aura marqué son époque.
Europe 1.
Bonjour, professeur Robert Cohen.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre à l'hôpital intercommunal de Créteil, vous êtes infectiologue, vous êtes vice-président de la Société française de pédiatrie. La part des enfants et des adolescents dans les contaminations au Covid est-elle comparable aux vagues précédentes ?
Non, certainement pas, puisque là, la grosse différence, c'est que ce variant est beaucoup plus contagieux, on y reviendra. Et que beaucoup d'adultes sont maintenant vaccinés, donc le virus a beaucoup plus de mal à circuler parmi ces adultes. Donc, il est normal qu'on assiste à un inversement du rapport enfant-adulte qui va se produire dans les mois à venir, jusqu'à ce que la vaccination des enfants soit possible.
Au début de la pandémie, le virus se transmettait peu entre les enfants. Ça n'est plus le cas aujourd'hui avec le variant Delta.
Alors, probablement qu'il se transmet toujours moins que chez des adultes non vaccinés, mais il y a moins d'adultes non vaccinés. Les enfants transmettent moins bien ce virus, mais avant on avait un R0 qui était à 2,53, alors même si ça tombait de moitié, on était à 1,5, là on a un variant qui est à 6. Donc on a forcément des R0, donc cette capacité de contaminer les autres qui est plus importante aujourd'hui qu'elle était hier. D'où l'importance des mesures d'hygiène.
Aux États-Unis, le nombre de cas de Covid chez les moins de 18 ans s'est envolé cet été. Alors il faut dire qu'ils reprennent l'école à la mi-août. On peut s'attendre évidemment à la même chose chez nous.
Alors, aux États-Unis, ça c'est les chiffres ont augmenté bien avant la reprise scolaire. Hein. Ils n'ont pas attendu la reprise scolaire pour avoir cette augmentation. C'est aussi le cas dans les autres pays, en Angleterre, et dans les pays où presque partout, le variant Delta est devenu prédominant. Donc, les États-Unis, c'est très, très particulier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une épidémie beaucoup plus intense que nous chez les enfants. Alors que leurs écoles étaient fermées sur presque toute la période, ils ont eu plus de cas que nous, ils ont eu plus d'hospitalisations, et le chiffre, c'est 4-5 par habitant. Donc c'est
on sait pourquoi ?
Alors, une des raisons, c'est le poids des minorités défavorisées aux États-Unis qui, comme partout ailleurs, ont joué un rôle important. Et quand on regarde dans les taux d'hospitalisation, les minorités hispaniques ou africo-caribéennes ont joué un rôle extrêmement important dans la dynamique. Et les écoles étaient majoritairement fermées.
Selon l'Institut Pasteur, qui a fait des modélisations, les mineurs pourraient représenter la moitié des contaminations cet automne.
Alors, que les mineurs puissent représenter la moitié des contaminations, c'est un scénario tout à fait possible. Et le but des modélisations, c'est bien ça, de donner des scénarios. La question, c'est quel est le nombre final si on applique bien les mesures. Bien sûr, maintenant, avec 70% d'adultes, 75% d'adultes qui vont être bien vaccinés, on comprend bien que le virus va circuler moins facilement chez les adultes et plus facilement chez les enfants, avec un variant plus contagieux, puisqu'ils ne sont pas encore et qu'il n'est pas possible encore de les vacciner. Donc oui, il y aura plus de cas proportionnellement chez l'enfant. L'objectif, c'est que ce nombre de cas n'atteint pas des chiffres trop importants pour jouer dans la dynamique de l'épidémie.
Il y a en ce moment des essais cliniques qui sont en cours chez Moderna et chez Pfizer sur les 5-12 ans.
Oui, il y a à peu près 10 000 enfants de 6 mois jusqu'à 11 ans qui sont inclus dans ces études. D'ailleurs, il y a des études aussi de doses parce qu'il n'est pas forcément évident que les enfants aient besoin exactement les mêmes doses que les adultes. Ces études vont arriver progressivement. Elles arrivent d'abord chez les 6-11 ans, puis plus bas, c'était le choix qui a été fait, c'est un choix qu'on comprend tout à fait bien et on espère avoir des résultats pendant cet automne, en tout cas pendant la mi-automne. Et puis après, si ces résultats sont favorables, il faut que ça passe à l'autorisation de mise sur le marché, puis à la recommandation.
Alors, en Israël, on a étendu le pass sanitaire aux enfants dès 3 ans.
Il y a une logique à ça, qui est que maintenant que les adultes sont vaccinés, on peut penser que les enfants fassent partie des plus contaminateurs. Un adulte bien vacciné, on sait qu'il peut quand même transmettre la maladie de temps en temps, mais ça réduit quand même de façon considérable le risque. Donc on peut penser qu'un enfant contaminé, aujourd'hui, peut être plus contaminant qu'un adulte vacciné. Donc il y a une certaine logique. Cette logique passe là par l'utilisation de tests pour savoir si on est ou pas porteur du virus. Et là, cette difficulté va être la fréquence. On comprend bien qu'en pleine vague épidémique, il faille faire souvent ces tests. Mais ce virus nous demande de nous adapter en permanence. Hein, c'est vraiment, je répète souvent, c'est pas une guerre de tranchées. C'est pas une guerre de tranchées. C'est une guerre de mouvement. Et il va falloir s'adapter au fur et à mesure.
Alors parlons du variant Delta. Quel effet a-t-il sur les enfants ?
Alors, ce qu'on a la certitude, c'est que le variant Delta est extrêmement contagieux pour tout le monde. Donc, il est aussi contagieux pour les enfants. On n'a pas aujourd'hui de preuves, en particulier en pédiatrie, qu'il soit plus grave une fois que la personne ait été infectée. Donc, on s'attend à plus de cas, mais pas forcément plus d'hospitalisations proportionnellement au nombre d'infectés et pas proportionnellement plus de passages en réanimation, voire plus. Donc, oui, on peut s'attendre à qu'il y ait plus de cas. Il est possible qu'il y ait plus d'hospitalisations, mais globalement, on est très rassurant et très optimiste. Le message, c'est vigilant. Il faut qu'on surveille, il faut qu'on applique les mesures, mais on est très optimiste pour la rentrée.
Est-ce que les enfants peuvent faire des formes graves ?
Oui, il y a des formes graves. Et là, on a des chiffres et se référer aux chiffres américains ou aux chiffres indiens, pour ça n'a pas de sens. Franchement, aujourd'hui, les données que nous donne Santé publique France, les remontées qu'on a des services de pédiatrie sont d'une grande fiabilité. Si je prends l'ensemble des enfants, depuis le début de la pandémie, il y a à peu près eu 5000 enfants hospitalisés. Beaucoup d'entre eux ont été hospitalisés pour des maladies bénignes, avec des durées moyennes d'hospitalisation de moins de 3 jours. On a eu un lot d'enfants de moins de 3 mois qui représentaient le tiers des hospitalisations. Pourquoi ? Parce que quand vous avez de la fièvre et que vous avez moins de 3 mois, on est obligé de vous hospitaliser pour vous faire des examens pour pouvoir éliminer une maladie bactérienne. Mais ces enfants ont été bien. Maintenant, ça, c'est les hospitalisations. Les passages en réanimation, c'est entre 700 et 800. D'accord ? Donc ça, c'est plus gênant. Et parmi ces passages en réanimation, il y a ces fameux PIMS ou Kawasaki qui sont ces grandes syndromes inflammatoires que l'on ne voit pas pendant l'infection.
Mais 4 ou 5 semaines après.
Au déco après l'infection, ouais. Qui est une réaction immunitaire inappropriée, hein, qui aboutit à ces lésions. Mais la quasi-totalité de ces PIMS a guéri parce que les traitements sont à peu près bien codifiés aujourd'hui.
Il y a eu 6 décès, je crois, d'enfants.
Alors, c'est difficile. Les chiffres sont un peu variables parce que, au total, si on regarde l'ensemble des moins de 18 ans, on est à moins de 20 décès en France. Mais ces 20 décès ne sont pas toujours attribuables directement au Covid. Il y a eu beaucoup de ces enfants qui avaient des pathologies sous-jacentes graves et le Covid n'est venu peut-être qu'un facteur aggravant. Mais néanmoins, il a peut-être joué un rôle dans la maladie. Mais de décès directement liés au Covid, on a moins de 10.
Professeur Robert Cohen, ne bougez pas, on fait une pause, on se retrouve juste après, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue. On fait le point sur les enfants et le variant Delta. C'est la rentrée scolaire à partir de jeudi. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu de chiffres venus des États-Unis qui étaient assez alarmistes. Dans le nord du Texas, tous les lits de réanimation pédiatrique étaient pleins le 12 août. On avait l'impression comme ça. À Nice aussi, on a dit qu'on prenait en charge des nourrissons positifs au Covid. Voilà de quoi inquiéter les gens.
Oui, on ne peut pas dire que la situation soit d'une sérénité totale. Hein. On ne va pas dire ça. Mais là encore, je rappelle que ces enfants, les écoles étaient fermées, qu'à Nice, c'était beaucoup de petits nouveau-nés, des nouveau-nés qui ont été forcément contaminés dans le milieu intrafamilial. C'est toujours comme ça que ça se passe. Voire pendant la fin de la grossesse, j'insiste, sur la vaccination des femmes enceintes, qu'elles soient correctement vaccinées parce qu'elles se protègent, elles sont plus à risque et elles protègent leur bébé de prématurité et de complications graves. Donc, il y a une chose qu'on a notée aussi, qui est une idée qui me paraît assez forte, c'est que la maladie n'est pas la même quand vous avez une contamination massive intrafamiliale ou quand vous avez une contamination dans le cadre de l'école, vous allez croiser quelqu'un, vous ne dormez pas avec, vous ne passez pas des heures et des heures. Cette quantité de virus que l'on peut recevoir joue sur l'influence. Et dans une étude qu'on est en train de finir, on montre que la majorité des PIMS, l'immense majorité, est l'objet d'une contamination intrafamiliale.
Les PIMS, je le rappelle, sont ce syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique qui peut aller jusqu'à causer la mort, hein, quand même.
Qui peut aller jusqu'à causer la mort s'il est diagnostiqué tôt aujourd'hui, s'il est pris en charge correctement, et il y a des recommandations en particulier de la HAS aujourd'hui pour la prise en charge, eh ben, l'évolution est favorable dans l'immense majorité des cas.
Il y en a eu un peu plus de 600 cas en France.
Un peu plus de 600 cas. Oui.
Alors, les mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale pour cette rentrée scolaire vous semblent appropriées ?
Alors, les mesures semblent appropriées. Maintenant, vous savez, il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Pas toujours facile de comprendre.
C'est assez bureaucratique, comme voilà, général, nos mesures à nous, les Français.
Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas appliquer complètement les mêmes mesures à terme, ou qu'on commence par les mêmes mesures, on peut le comprendre, en fonction de la circulation du virus. C'est tout à fait cohérent dans une région où le virus circule de façon intense, qu'on fasse beaucoup de tests pour dépister très tôt les enfants, pour pouvoir prendre des mesures d'isolement, fermer les classes, etc. Ça, cette partie diagnostique est très, très importante. On peut imaginer qu'à certaines périodes, on puisse tester deux fois par semaine un certain nombre d'enfants parce que le virus circule de façon importante. Il y a d'autres périodes où il circulera moins, il faudra arrêter de prélever. Ça devient une gabegie sur le plan financier, sur le plan du désagrément des enfants, même si les autotests ont réduit le désagrément pour ces enfants, c'est quand même tout ce qui est inutile, on ne va pas le faire. La deuxième chose, c'est tout ce qui était fait pour prévenir la diffusion du virus. Là, toutes ces mesures doivent être en place et le ministre a annoncé un effort particulier pour la circulation air, c'est-à-dire les capteurs, éventuellement les systèmes d'aération dans les classes ou des systèmes de purification dans les classes.
Je vous interromps parce que ça, je voulais vous en parler. La généralisation des capteurs de CO2 ou des purificateurs d'air dans les classes, on en parle dans cette émission depuis un an, j'ai l'impression, et on a l'impression que ça n'avance pas. Pourtant, ça ne coûte rien.
Alors oui, ça, effectivement, ça ne coûte pas très cher individuellement et c'est vrai que c'est une technique qui marche. Il faut comprendre que quand les coronavirus sont arrivés, l'histoire des coronavirus, c'était des transmissions gouttelettes, c'est-à-dire moins de 2 mètres, avec le port du masque, avec le lavage des mains qui suffisait. Et puis, au fur et à mesure, on s'est aperçu que cette transmission air, c'est-à-dire les toutes petites particules qu'on émet dans l'air et qui les micro-aérosols restent longtemps et peuvent contaminer. Et il semble que plus un virus est contagieux, comme le variant Delta, plus cette transmission air peut être importante. Donc au début, c'était considéré comme un mode de transmission mineur. Aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme un mode de transmission mineur et il faut prendre un certain nombre de précautions pour cela. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le mélange des classes. Supposez qu'il y a un cas dans une classe de 30 personnes, on teste les 29 autres, ils sont négatifs, il va être isolé, la classe va être fermée quelques jours. Mais si il a mangé à la cantine avec 100 personnes dans la salle, sans masque, etc., la diffusion des pathogènes. Le non-mixage des classes est un phénomène aussi très très important. Bien sûr, le port du masque dès 6 ans, bien sûr, le lavage des mains, tout ça est important. Ça devient bien plus important que la transmission par les objets, les stylos qu'on craignait beaucoup avant.
Vous parlez du port du masque dès 6 ans. Aux États-Unis, l'Association américaine de pédiatrie, l'équivalent de celle dont vous êtes le vice-président en France, recommande le port du masque à l'école dès 2 ans.
Oui, alors ils recommandent dès 2 ans. Ils ont eu un vécu d'épidémie, comme j'expliquais, très différent du nôtre. Hein. Beaucoup plus de morts. L'Académie américaine de pédiatrie, dans un dernier document envoyé à la FDA, donne 350 enfants morts. D'accord, bon, ils sont 5 fois plus nombreux que nous. On rapporte, on a dit, nous, on est probablement inférieur à 10, on voit bien. Et ils ont un nombre d'hospitalisations qui a été beaucoup plus important. J'ai parlé des minorités, j'ai parlé aussi des facteurs de risque. Il y a beaucoup plus d'obésité aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'autres facteurs de risque qui les rend beaucoup plus prudents. Et puis, il y a un système de santé qui est très différent du nôtre. Hein. Donc, l'accès aux soins, ils ont fait énormément de progrès pour le Covid, hein, ça je le sais. L'accès aux soins n'est pas tout à fait le même. Donc, franchement, on a aujourd'hui en France, grâce à Santé publique France, grâce au réseau, deux systèmes de surveillance. Les chiffres donnés sont des chiffres fiables et peut-être qu'il faudra des adaptations, mais aujourd'hui, on ne les sent pas.
Alors, revenons à ces enfants en France. Depuis le début de la pandémie, on a bien compris qu'ils ont souffert, au fond, plus mentalement que physiquement.
Ah, clairement. Clairement, nous, depuis le mois de mai 2020, on attire l'attention sur les conséquences de ces fermetures itératives d'écoles ou de ces fermetures globales puis itératives d'écoles parce que nos enfants ont souffert gravement, et y compris nos adolescents et probablement encore plus les adolescents. Je ne devrais pas dire encore plus, mais tout le monde a souffert. Pourquoi ? Parce que l'école, c'est non seulement l'éducation. L'éducation, quand des parents peuvent les suivre à la maison, on arrive à des résultats corrects, mais ça accrue les différences de façon considérable. Mais la souffrance mentale, elle est pour tous. C'est-à-dire le fait que cette non-socialisation, cet arrêt aussi des activités extrascolaires, y compris sportives, a entraîné une explosion des consultations pour des motifs psychologiques, aussi psychosomatiques, parce que ça a entraîné des symptômes cliniques, hein, et aussi sur des formes plus graves, c'est-à-dire une augmentation des tentatives de suicide, une augmentation des dépressions et une augmentation des hospitalisations en psychiatrie. Ça a été un prix très lourd à payer lors des premières vagues.
J'ai l'impression qu'on n'a pas encore bien mesuré à quel point cette pandémie aura marqué cette jeune génération.
Ah oui, de façon considérable. Et on a l'impression quand même qu'ils ont payé jusqu'à présent un prix très cher pour une maladie qui les touchait en termes de gravité relativement peu. Je ne veux pas vous comparer la mortalité liée aux méningites en France par rapport à la mortalité au Covid. Ni la mortalité au gastro-entérite, ni la mortalité. Tout ça, c'est beaucoup plus important. Et on n'en a pas parlé autant, et on n'a pas pris les mêmes mesures. Donc on a l'impression que, là encore, la société vit à crédit sur le dos de nos enfants. L'expression n'est peut-être pas heureuse.
Merci Robert Cohen. Je rappelle que vous êtes pédiatre à l'hôpital intercommunal de Créteil. Vous êtes infectiologue et vice-président de la Société française de pédiatrie. On fait une pause. On se retrouve avec Virginie Martin. On va parler séries télé.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Virginie Martin.
Bonjour.
Vous êtes politologue, vous êtes professeure et chercheuse à la Kedge Business School. Vous êtes également au comité scientifique de la revue politique et parlementaire. Or, aujourd'hui, vous sortez chez Human Science, le charme discret des séries. Alors, pourquoi les séries télé ?
Eh bien, alors je l'ai pas pris, Frédéric, au départ comme un objet d'analyse sociologique. C'est plutôt, je suis tombée dedans, un peu en spectatrice finalement, à la faveur, entre guillemets, d'un problème de santé. Et finalement, les séries m'ont peut-être un peu sauvée.
Elles vous ont sauvée au point de vous donner envie d'écrire un livre dessus. Vous dites que, au fond, les séries ne sont pas seulement des divertissements addictifs, plus ou moins hypnotiques. Elles imposent, mine de rien, je vous cite, et de manière redoutablement efficace, des débats sur des sujets brûlants, peu abordés dans les médias et par la sphère politique. Elle participe à coup sûr, dites-vous, à façonner le monde de demain.
Mon âme, ou mon surmoi de politiste et de sociologue, évidemment, devant ces objets culturels, divertissants, addictifs, effectivement hypnotiques, c'est forcément réveillé. Ce sont des objets politiques redoutables. Quand je dis politique, évidemment, c'est sociologie, sociétaux, écologiques, environnementaux, peut-être un peu moins au regard des classes sociales. C'est peut-être la chose qui pêche un peu dans les séries, mais effectivement, ça façonne quand même nos représentations de manière absolument redoutable via deux choses, évidemment l'addiction, mais aussi parce que ça passe par le biais des émotions. Et finalement, l'émotion, évidemment, est un pouvoir extrêmement puissant qui peut nous faire croire et adhérer à beaucoup de récits.
Alors ces séries, dites-vous, Virginie Martin, elles ne sont pas anodines. Hein. Elles alertent, elles dénoncent, elles influencent, elles forgent de nouvelles représentations.
Oui, c'est-à-dire que bon, déjà des représentations, par exemple, sur tous les mondes queer, LGBT, ça c'est vraiment très fort. Les questions des couleurs de peau, des ethnies, comme on dirait aux États-Unis, ou des racisés, comme on le dit en France. Donc tout cela, c'est très important dans les séries. Mais c'est pas que ça. Ça parle aussi politique au sens strict du terme. Ça a beaucoup, beaucoup dénoncé Donald Trump, notamment aux États-Unis. Mais en France, on peut penser évidemment à Baron Noir, à Marseille, la série Les Sauvages avec Roche Dizem qui est poussé en président de la République. Et puis aussi, elle dénonce aussi la dérive environnementale, écologique, autoritariste, la société de surveillance des Black Mirror, la série L'Effondrement des Parasites. Il y a beaucoup, beaucoup de messages politiques. Il y en a peut-être plus que sur une chaîne d'info, finalement.
Et plus qu'au cinéma. C'est sans doute pour cette raison, d'ailleurs, qu'on parle aujourd'hui plus facilement de séries dans les dîners, comme on dit, que de films.
Mais oui, plus qu'au cinéma, parce que d'abord, tout film ne s'empare pas d'un objet politique, déjà. Voilà, le côté peut-être divertissement est peut-être un peu plus important, et tout film n'a pas, voilà, tout le monde n'est pas Ken Loach, évidemment. Mais aussi, dans la série, il y a le temps. Et on peut imposer une représentation petit à petit, la distiller comme ça, subtilement, via des émotions. Un film, vous pouvez le prendre en coup de poing. Voilà, une heure et demie, et après il va s'envoler. Une série, regardez Homeland, je crois qu'il y a 8 saisons, quelque chose comme ça. C'est sur, évidemment, les relations extérieures états-uniennes, dans des pays arabo-musulmans le plus souvent. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, et les personnages peu à peu s'imposent, et c'est un cours de géopolitique absolument fabuleux. Un film, une heure et demie, ne peut pas tout à fait concurrencer cela.
Alors en même temps, toutes ces séries, la plupart d'entre elles, en tout cas ce qui a fait la révolution des séries au tournant du 21e siècle, c'est qu'elles sont devenues immorales. Les séries politiques, normalement, notamment, sont peuplées d'intrigants et d'intrigantes, de manipulateurs et de manipulatrices, mais pas seulement. Les héros sont très souvent des criminels.
Oui, bah, notamment si on passe à Baron Noir, par exemple, ou à Marseille. Oui, ce sont des séries très particulières où le politique est montré sous des atours les plus horribles, les plus affreux, les plus délétères, les plus immoraux, pour reprendre votre terme. Donc oui, et là-dessus, justement, je suis allée un peu voir mes collègues politologues et puis certains militants qui disent bah, c'est quand même sacrément caricatural et il n'y a pas de grand récit politique dans ces séries, c'est peut-être dommage, et on les retrouve plutôt dans les dystopies, les beaux récits politiques qui nous feraient un peu rêver d'un demain peut-être un peu meilleur. Mais les séries politiques au sens un peu plus primaire du terme, elles sont sèches, elles sont cliniques, et vraiment elles montrent le pire du pire du politique.
Alors de quoi parle-t-elle cette série? Mais très souvent elle parle de la diversité, elle parle des minorités, elle parle des marges au fond.
Oui, c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment fascinée. J'avais monté dans le temps un groupe de réflexion qui s'appelait Think Tank Différent. Et je travaillais beaucoup sur le phénomène des marges, sur le queer et ce genre de choses. Et j'ai trouvé que dans ces séries, il y avait beaucoup de cela, en fait, en effet. Comme si les marges étaient créativité, étaient innovation, comme si les marges pouvaient nous dire un peu plus de subtilité de la société, du politique, de nos environnement. Et ça, c'est important. Après, évidemment, dans l'intention, notamment de Netflix, il y a aussi une volonté d'inclusion de ces marges racisées, afro-américaines, LGBT, gays, etc. Mais on peut retrouver ça tout à fait sur TF1, dans Ici tout commence. Hein. Je veux dire, c'est pas toujours états-unien, cette affaire. Donc ça, c'est important. Et donc, il y a aussi cette volonté, effectivement, d'inclusion, mais aussi de travailler peut-être vers des biais plus originaux, avec des scénaristes et des producteurs qui eux-mêmes sont souvent issus de ces mêmes marges.
Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes, par exemple, ils tiennent des rôles beaucoup plus importants qu'au cinéma. Les femmes ont très souvent le rôle principal dans les séries. Elles ont le pouvoir, elles vivent pleinement leur vie professionnelle. Elles sont aussi très différentes physiquement les unes des autres. Faites-vous remarquer, il y en a des maigres, des rondes, des minces, des petites, des grandes, des jeunes ou des âgées, des asiatiques, des blanches, des noires, des rousses, des blondes, des brunes ou les cheveux blancs. Il y a toutes sortes de femmes dans les séries.
Absolument, absolument. Je crois que le descriptif est parfait, Frédéric. Mais c'est vrai que c'est aussi, c'est dû aussi à qui tient les manettes. Quand on a une Shonda Rhimes, par exemple, qui fait Scandale, qui produit Murder, qui fait Grey's Anatomy, forcément, elle est consciente de cet impact, d'une normalisation du féminin. Là, au contraire, justement, elle le dénormalise. Elle dit, il y a tout. Toutes les femmes sont des humaines. Dans les humains, il y a des humaines. Et point, quelles qu'elles soient. Elles ne sont pas toujours séductrices, elles ne sont pas toujours sensualité, elles ne sont pas toujours sexualité. Elles sont juste des êtres humaines. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça crée aussi, du coup, ça vient attraper un public qui peut s'identifier.
Virginie Martin, on fait une pause. On se retrouve juste après. On continue de parler des séries et de ce dont parlent les séries.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Virginie Martin qui publie Le charme discret des séries chez Humaine Science. Est-ce qu'elles sont colorblind les séries, comme on dit aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que la couleur de peau ne compte pas, au fond, dans l'attribution des rôles? On a vu Omar Sy tenir le rôle d'Arsène Lupin, qui pourtant, au départ, dans les livres de Leblanc, est blanc.
Alors, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une conscience de qui sont les gens, de leur identité. Et ça, c'est très important. Donc, c'est rarement par hasard. De toute façon, il y a du message, si je puis dire, politique ou sociétal à mettre effectivement Omar Sy en Arsène Lupin, bien entendu. Même si, bon, le discours français là-dessus est pas très bienveillant sur ce genre d'audace, si je puis dire. Les séries là-dessus anglaises ou américaines sont beaucoup plus ouvertes sur ces questions-là. Et puis aujourd'hui, elles sont ouvertes à but d'inclusion, peut-être, mais aussi, elles disent, et les producteurs et même les observateurs de la vie des séries, notamment dans le monde anglo-américain, disent, finalement, on raconte dans les séries la rue que l'on voit tous les jours autour de nous. Tout simplement. Et là, je reprendrai finalement aussi la série Plus belle la vie, qui a été souvent moquée par les élites intellectuelles, mais qui est née il y a une vingtaine d'années dans les rues de Marseille et qui a fait aussi beaucoup de bien dans un reflet de la rue marseillaise. Et de la rue, quand je dis marseillaise, c'est de la rue de 2020 ou de 2010 ou de 2030, après-demain, après-après-demain. Donc, les séries, est-ce qu'elles anticipent ou est-ce qu'elles, finalement, elles ne sont que le reflet de ce que nous sommes, tout simplement?
Alors, c'est vrai que les Noirs sont extrêmement représentés dans les séries américaines, comme les arabo-musulmans dans les séries françaises, que ce soit En Thérapie, Marseille, Les Sauvages, où vous l'avez dit, un Français d'origine kabyle, interprété par Roche Dizem, devient président de la République. Même chose pour les personnes lesbiennes, gays ou trans, il y en a énormément dans les séries.
Absolument, absolument, et ça on le doit d'abord certainement au créateur Ryan Murphy, qui fait Pose il y a quelques années, Nip Tuck, qui fait Glee, The Politician, American Horror Story, enfin qui fait tellement de choses, et qui lui-même a voulu aussi travailler sur ces questions LGBT, mais aussi jusqu'à la transsexualité, bien sûr. En Angleterre, on doit certainement tout cela aussi à quelqu'un qui est aujourd'hui très connu, Russell T. Davies, qui a fait Years and Years, une dystopie fabuleuse, et aussi It's a Sin, et qui lui aussi est quand même, ce sont aussi un peu des militants de la cause LGBT qui peuvent aller jusqu'au queer ou jusqu'au trans ou pas, mais dont Orange is the New Black en 2014. On voit déjà un personnage trans très important.
Orange is the New Black, c'est donc dans une prison de femmes. Il n'y a quasiment que des femmes dans cette série.
C'est ça. Dans cette série, il y a 98% de femmes. Oui, les questions LGBT, d'adoption d'enfants aussi, sont très très souvent abordées dans ces séries.
Et puis les malades aussi. Les héroïnes et les héros de séries sont souvent malades, ils ont des maladies rares, fortement handicapantes.
Oui, c'est vrai. Alors, il peut y avoir des handicaps très visibles, hein, comme dans les séries sur TF1, où une gamine est en fauteuil roulant, l'autre a une main en moins, un gamin a une main en moins, mais aussi, d'une manière plus générale, peut-être, des cancers un peu invisibles, et puis un autisme peu perceptible, ou bien des troubles bipolaires, comme Carrie dans Homeland, où on le voit dans The Good Doctor aussi, une espèce de petit génie un peu autiste, etc. C'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a ces handicaps visibles et invisibles. Et ça, c'est quand même important de les visibiliser grâce à l'écran.
Mais alors justement, comment vous expliquez tout ça, Virginie Martin ? Est-ce que c'est du marketing ? A priori, on fait de la contre-programmation, les autres n'en parlent pas, donc nous, on en parle. Ou est-ce que c'est pour simplement intéresser plus de monde, ceux qui eux-mêmes vont se reconnaître dans tous ces personnages de série qu'on ne voit pas ailleurs ? Ou est-ce que c'est pour diffuser un message, alors qu'on pourrait qualifier soit de progressiste, soit de diversity friendly?
De toute façon, il y a un peu tout ça, Frédéric, d'une certaine manière. Sur Netflix, là-dessus, ils sont très agressifs, hein, et leur propos est très clair sur le côté diversity friendly. Ça, c'est très, très clair chez eux. Maintenant, on peut pas ne pas penser qu'il n'y a pas de marketing là-dedans, c'est évident, mais aussi, il faut bien savoir que ce monde des séries, finalement, certaines personnalités américaines notamment, se sont emparées de ce monde à défaut de s'emparer du monde du film hollywoodien. Et donc, finalement, c'était un peu le parent pauvre. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des Shonda Rhimes, des Phoebe Waller, etc. Parce que finalement, on leur laissait pas toute la place dans le grand cinéma américain. Et donc, ces personnalités qui peuvent être noires, lesbiennes, gays, etc., ont pris les manettes. C'est ce que l'héroïne de La Servante Écarlate dit à une cérémonie. Elle dit « Maintenant, c'est nous qui écrivons les histoires. »
Et les femmes aussi.
Et donc,
aussi,
forcément, on écrit. Bien sûr. Et forcément, donc, on écrit des histoires qui nous ressemblent un peu plus.
C'est dans les séries, toutefois, aujourd'hui, que l'on parle le plus de politique, non ? On parle du populisme, c'est souvent l'ennemi, d'ailleurs, hein, de l'écologie. Il y a beaucoup de séries sur l'effondrement, beaucoup de séries animalistes. C'est antitotalitaire, contre la surveillance, contre le contrôle. C'est contre les riches. C'est souvent contre le pouvoir, au fond.
Oui, c'est vrai. Je crois que vous avez très bien résumé aussi. C'est en effet des questions écolo, des questions environnementales. Les animaux, vous l'avez bien dit, hein, sont aussi à l'honneur dans ces séries. La société de surveillance est très, très dénoncée. Alors, les riches, oui, mais ce n'est pas tout à fait les riches. C'est les ultra, ultra riches qui se détachent, en fait, de notre planète, d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas tout à fait non plus la lutte des classes classiques bien marxistes. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vraiment les 0,01% ou les 1%. Ou les 3% pour reprendre le titre de la série 3%. Donc vous voyez, il y a une espèce aussi de dénonciation d'une élite qui aurait lâché finalement peut-être 6 milliards et presque 7 milliards de gens pour rester entre elles. Ça, c'est très dur aussi. Donc, et le populisme, effectivement, est très, très dénoncé. Et oui, dans Years and Years, hein, pour ne pas la citer, c'est absolument, c'est l'Europe qui aurait sombré dans les bras d'un Boris Johnson couplé avec un Trump et peut-être avec une Marine Le Pen.
Virginie Martin, depuis que vous avez écrit ce livre, vous continuez de regarder des séries, laquelle en ce moment ?
New Amsterdam est une série passionnante sur le monde médical et qui parle beaucoup de nous aussi et même de la France, puisque c'est comment aussi payer parfois des actes médicaux. C'est aussi là. Là, je trouve qu'il y a un vrai message un peu plus économique, un peu plus social, vraiment très intéressant. Et puis, parce qu'on ne se refait pas et que je reste universitaire, bien sûr, The Chair, donc la directrice, avec Sandra Oh, qui reprend un département de langue anglaise dans une belle université américaine et qui a du mal et qui essaye de séduire pour que les étudiants et les étudiantes reviennent vers la langue anglaise et la littérature, un peu comme dans Murder, mais sans les meurtres, dans l'amphithéâtre que j'aime depuis tant d'années.
Merci Virginie Martin. Le charme discret des séries, ça vient de paraître chez Humaine Science. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Jean-Michel Ribes.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et Jean-Michel Ribes qui m'a rejoint dans ce studio et mon premier mea culpa, j'espère que ce sera le seul de cette saison. Je n'ai pas cessé de répéter depuis le début que c'était votre dernière saison à la tête du Théâtre du Rond-Point. Ça n'est pas le cas, vous êtes encore là pour un moment.
Voilà, on me subira encore en 22-23.
Voilà. Voilà, alors pourquoi est-ce que je croyais qu'au bout de 20 ans c'était fini? Non, ce n'est pas fini.
Non, c'est-à-dire que c'est jamais fini, mais même après le Rond-Point, il y a une vie après le Rond-Point.
Oui, on aurait pu en parler d'ailleurs, on en parlera.
Oui. Non, je ne sais pas, c'est ces dates fatidiques, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça peut être 21 ans. D'ailleurs, quand j'avais fêté l'anniversaire de la mort de mon copain Topor, je n'avais pas voulu que ce soit un chiffre rond. C'était au bout de 13 ans, mais pas au bout de 15 ans ou de 10 ans.
Oui, c'est vrai. Après tout, pourquoi toujours les chiffres ronds, hein ?
Oui.
Alors Jean-Michel Ribes, ça fait quand même 20 ans que vous êtes à la tête de ce théâtre très particulier où vous programmez de 35 à 40 spectacles par an. Toujours des auteurs vivants, et c'est ça qui a été votre message, l'identité de ce théâtre, oui. Dès que vous en avez pris la direction. Qu'est-ce qui caractérise d'après vous le théâtre de ce début du XXIe siècle, puisque vous êtes au plus près pour nous dire s'il est différent des théâtres précédents?
Je crois que ça s'ouvre un peu. Je crois qu'il y a une notion qui était très critiquée, qui était même mise, c'était un crachat sur l'art, c'est la fantaisie. La fantaisie devient quelque chose qui est regardé peut-être comme une possibilité de création nouvelle. La fantaisie, c'est aussi le fantasme, c'est aussi la fantasmagorie, ça vient de l'allemand, ça vient de l'anglais. On peut se balader aussi dans une espèce de culture plus approfondie qu'on croit. Mais je crois qu'il y a une fantaisie. Et moi, je sais que, j'ai pour preuve en tout cas, tous les gens qu'on a invités au Rond-Point, que ce soit, qui ont commencé, Brice Pipo Del Bono, James Thierry, et je peux en faire une série comme ça, incroyable, ça s'est diffusé partout. Dans les théâtres dits sérieux, dans les chapelles de l'art. Voilà, je crois qu'il y a une déchapellisation de la culture, ça c'est vrai.
Mais c'est vrai que la fantaisie, vous avez raison, je trouve que le mot est approprié. Il y a eu des époques où le théâtre se voulait particulièrement grave, sérieux, voire métaphysique. Mmh. Et aujourd'hui, la fantaisie, c'est ce qui prime.
Bah, la fantaisie, parfois, est plus métaphysique que la métaphysique. C'est-à-dire que ça ouvre les portes à la fois sur le rire, mais le rire qui mène à l'inconscient, qui mène à découvrir d'autres univers. Et c'est vrai que c'est une porte à la fois joyeuse et à la fois culottée pour aller ailleurs.
Quand vous avez pris la direction de ce théâtre, il y a 20 ans, donc vous avez dit « je ne veux jouer que des auteurs vivants ». Et en cela, c'était unique, hein, ça n'existait pas.
Non. Enfin, si, il y avait Lavelli qui avait baissé un peu la colline. Après, Françon l'avait fait un peu, mais a vite tourné vers Tchekhov et d'autres auteurs, pas tout à fait vivants. Non, c'est vrai, mais même aujourd'hui, je crois qu'on est le seul théâtre en France à ne faire que des auteurs vivants.
Est-ce que vous, néanmoins, vous avez eu l'impression de faire école, d'une manière ou d'une autre? Parce que je sais, si on en a parlé, du Rond-Point et de la petite révolution qui était en train de se produire au Rond-Point.
Oui. Écoutez, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, disons que ça fait moins peur d'avoir des auteurs vivants. Ça fait moins peur. Parce que moi, quand je suis arrivé, on disait non seulement ils n'existent pas, mais ceux qui existent sont chiants. Donc voilà, ça fait moins peur. Et je dirais même qu'il y a une chose qu'on a essayé de faire, moi j'ai essayé de faire dès le début, c'est de ne pas programmer ce que les gens aimaient, mais qu'ils ne savaient pas encore qu'ils aimaient. Alors, ils sont venus, ils ont découvert des choses en disant « Ah, mais il y avait quand même une curiosité, parce que j'avais fait assez de bêtises avant pour qu'ils viennent vérifier si je continuais. » Et il y a eu une espèce de tout d'un coup, ah, mais c'est voilà, il y avait ni Chêne Connery ni Brice de Bardot sur scène, mais ils trouvaient ça, ah, ils disaient c'était formidable. Donc, si vous voulez, après, je crois qu'on a eu un peu de crédit, sans avoir de star system, sur des pièces nouvelles, d'attirer le public en se disant ça va peut-être être curieux, on va peut-être avoir des surprises.
Vous avez quand même fait des bides de temps en temps, non?
Oui.
Est-ce que vous avez, c'est quoi vos plus gros échecs, ce que vous regrettez, parce que vous pensiez vraiment que ça allait marcher?
Moi, disons que on fait pas de marketing. Je veux dire, moi, j'adore certaines choses et je me dis, comme je suis encore un être humain, d'autres êtres humains vont les adorer. Non, oui, on a fait quelques échecs. Le plus retentissant a été pourtant un type qui a un poète un peu comme ça extra-urbain qui s'appelle Lazare, là, je dois dire que ça n'a pas marché.
Alors, le théâtre du Rond-Point, ce n'est pas seulement les auteurs vivants, c'est trois salles, un restaurant, un bar, une librairie sur deux niveaux. Il y a un petit côté aéroport, mais en plus chaleureux,
oui, mais
en plus convivial, en plus humain. Puis on n'est pas obligé d'enlever ses chaussures avant de partir en voyage.
Oui, moi je suis pour le théâtre d'aéroport. Je suis pour le théâtre, on s'assoit dans un fauteuil et on décolle pour une destination inconnue. Je suis tout à fait d'accord pour cette définition. Vous citez trois salles, etc. Je vous signale qu'il y a aussi souvent une voyante sous l'escalier et je mets, de temps en temps, on a mis une chanteuse d'opéra dans les toilettes d'âme.
Mais c'était une petite révolution, là aussi, à l'époque, de concevoir un théâtre qui ne jouerait que des auteurs vivants. Qu'il allait pouvoir, en plus, on allait pouvoir les rencontrer. C'est un lieu, le Rond-Point, ils dînent au restaurant pendant qu'on regarde leurs pièces, ou ils sont en train de prendre un verre au bar. Ils sont peut-être aussi en train de demander à la voyante ce que sera leur avenir. Mais je veux dire, par là, c'est un endroit où on rencontre des gens. Ça n'est pas le propre du théâtre, a priori.
Bon, en tout cas, moi, j'avais envie de faire un lieu de vie, un lieu de vie et un lieu d'envie. Et c'est vrai que ça, cette mayonnaise a pris, parce qu'il y avait aussi le fait que on programmait ceux qui inventent le monde ou qui le renouvellent, qui sont les auteurs, mais aussi ceux qui le vivent. Et j'ai voulu que ce soit un théâtre forum. Et on a fait beaucoup de débats d'idées, beaucoup de débats avec des politiques, des intellectuels, Edgar Morin, Cohn-Bendit, etc. Et ce qui fait que ça a mêlé un public attiré par simplement la présence politique ou des débats d'idées, avec un public sensible à la fiction et au théâtre. Et tout ça a fait que, en effet, il y a eu un mélange, il y a eu un brassage, et le virus du théâtre est passé.
Alors cette saison, vous allez nous présenter 38 spectacles. Il y aura Marc Fraise, Laetitia Casta, Sarah Giraudeau, Julie Depardieu, Patrick Timsit, Jean-Claude Galotta, José Garcia, Alex Lutz, Alice Zéniter, je ne peux pas tous les citer. Ça commence à partir de mardi avec J'habite ici, une pièce que vous avez écrite et mise en scène. Une pièce avec une dizaine de comédiens, ça devient très très rare. Hein.
Ben, je ne sais pas, en tout cas, moi j'ai fait quelques spectacles par musée au musée bas, on était très nombreux aussi. Je veux dire, René Lénervé, cet opéra bouffe sur notre ami Sarkozy, il y avait 21 chanteurs d'opéra. Je veux dire, il y a un moment, il y a deux choses. Il y a économiquement, beaucoup d'acteurs ont envie de participer à des choses chorales qui sont très portées et donc ne réclament pas forcément des cachets dispendieux. Et puis aussi, je crois que le public aime aussi de voir une espèce de spectacle où il y a plein d'acteurs incarnés, etc. Ça, parce qu'il y a beaucoup le côté pas de décor, pas de truc, ça coûte pas cher et c'est un seul en scène qui commence à s'épuiser.
Oui. Vous en programmez moins, donc.
Oui. Non, ils en programment moins. Il y a Fraise, il y a Timsit, il y a des gens quand même qui ont une espèce d'énergie folle et qui, par leur incarnation, multiplient les personnages. Mais c'est vrai, je crois que le théâtre est fait pour apporter comme ça des spectacles avec plusieurs acteurs.
Mais dans J'habite ici, par exemple, il y a des passants. Et ça m'a rappelé le théâtre de Marcel Aimé. Lui aussi, il y avait 13, 14 acteurs, mais il y avait un passant.
Oui, mais il y avait un passant qui tout de suite après jouait le premier rôle qui suivait.
Oui, il jouait ensuite le policier, puis
Mais c'est ça. C'est-à-dire que quand vous dites 10 acteurs, moi, dans ma pièce, il y a 10 acteurs qui jouent 30 rôles.
Ouais.
Donc, si vous voulez, il n'y a personne, et on se dit, il n'y a pas de figurant.
Qu'est-ce qui vous fait rire dans J'habite ici ?
Ah bah, tout me fait rire parce que j'ai écrit ça pour me désennuyer, pour sortir du marécage de la bien-pensance. Mais je veux dire qu'il y a une scène tout à fait particulière qui me fait rire, c'est quelqu'un qui réérotise complètement un ministère.
Vous pensez que c'est désérotiser un ministère ? Pourtant, on dit que le pouvoir, c'est
sacré. Non, mais quand je dis réérotiser, c'est dans comme ça.
Le lieu.
Le lieu, les gens, tout ça. Voilà. Qui réérotise en tout cas, qui montre que, je sais pas, Europe numéro 1, peut-être vous êtes tous en train de faire des cochonneries sans qu'on le sache partout dans les bureaux.
Mais attends, il y a des caméras, vous savez, à la radio.
Oui, justement, après vous repassez les films, c'est pas mal. Mais là où il y a une scène que joue Olivier Broche et puis Marie-Christine Horry, et puis il y a des acteurs formidables, et puis il y a mon ami avec qui est plein de Molière, là, avec Théâtre sans animaux, qui est Annie Gregorio, qui est un personnage absolument irrésistible.
Annie Gregorio, qui a été très souvent dans vos productions, Jean-Michel Ribes. Comment vous faites le casting, vous ? Parce que vous les connaissez tous, les comédiens, aujourd'hui. J'ai l'impression que vous connaissez tous les auteurs, mais vous connaissez aussi tous les comédiens.
Oui, je connais bien les comédiens. Bah, disons que j'essaye d'abord de à la fois de rester dans ma famille et à la fois d'en découvrir une autre. C'est-à-dire que je suis très content, là, il y a plein de jeunes comédiens que j'ai découvert, que j'ai été chercher et qui me plaisent parce qu'ils me surprennent, etc. Je reste pas dans les habitudes. Parce que c'est vrai que on peut me mettre, j'ai plein de défauts, mais j'ai quand même découvert des gens avant les autres. Je peux en citer une brochette qui sont aujourd'hui des stars immenses.
J'habite ici, c'est donc à partir de mardi au Théâtre du Rond-Point, une pièce écrite et mise en scène par Jean-Michel Ribes. Merci Jean-Michel d'être venu un dimanche matin en
surtout,
direct sur Europe 1.
Mais c'est un plaisir, je voulais vérifier si à cette rentrée vous alliez bien, ça va.
Et tout va bien.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain à 9h. Et après moi, c'est Sonia Mabrouk qui arrive. Sonia Mabrouk, qui est votre invitée pour cette première.
Bonjour Frédéric, notre première invitée pour le premier grand rendez-vous de la saison sera Valérie Pécresse. Nous l'interrogerons avec Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté. À tout de suite.
Merci, bonne émission.